écoutez devdevdev.net, le podcast des développeurs francophones Microsoft.net.
Eh bien écoutez, bonjour et bienvenue dans ce 46e épisode, si je ne me trompe pas, de devdevdev.net. Alors aujourd'hui, on va parler outils d'analyse de son code pour être sûr de produire du code, du code propre, du joli code. Et pour cela, j'ai deux spécialistes dans le domaine. Donc le premier, c'est Gérald de Barré. Bonjour.
Salut.
Donc MVP catégorie développeur technologie depuis 2020 et auteur du blog Bezientoo.net et de nombreux outils justement qu'on va voir aujourd'hui qui servent à analyser votre code. Et j'ai également Patrick Smakia. Bonjour.
Bonjour.
Tu vas bien?
Très bien, très bien.
Oui. Bon anniversaire.
Merci. Donc, j'ai 29 ans aujourd'hui, alors tu vois.
Oui, voilà, oui, escroc.
En hexadécimal.
C'est à peu près là, c'est à peu près l'âge qu'on s'est connu, hein, quand on allait à Redmond il y a 20 ans. Donc c'était à peu près ça.
Donc CEO de la société Ndepend. Et donc qui est auteur de l'outil Ndepend et anciennement effectivement Microsoft MVP, c'est il y a longtemps, hein, c'est, je ne sais plus en quelle année, c'était en 2006-2007 je crois à peu près.
Ouais, ça a duré quelques années à partir de 2004, je pense, en gros de 2004 à 2010, quelque chose comme ça.
D'accord. Ok, donc là on est aujourd'hui pour analyser son code. Donc la première chose moi que je vois, c'est que on a notre projet qui a été chargé dans Visual Studio. On fait une compilation
ou
VS Code,
VS Code
hein. Maintenant.
Ouais, voilà.
Ouais.
Et donc quand on fait la compilation, on a ça marche ou ça marche pas, mais on a notamment des warnings et des commentaires qui apparaissent. Alors la première chose que je voulais vous demander, c'est s'il y a des warnings qui apparaissent, quelle est votre attitude par rapport à un code qui doit aller en production? Est-ce que vous dites non, j'interdis les warnings ou j'autorise les warnings?
Pour moi, la solution est très simple. En local, c'est quand tu développes, des warnings, c'est OK. Là, tu as envie d'itérer, tu as envie de tester quelque chose, c'est OK que tu aies des warnings. Par contre, sur un CI, moi, j'interdis toujours les warnings. Donc, c'est une option dans ton CS Pro, tu peux mettre Tweets Warning as Errors. Et dans ce cas-là, tous les warnings vont être convertis en erreurs. Donc ça, tu le fais sur un CI, par exemple. Et là, c'est parce qu'un warning, c'est quand même un point où tu te dis, fais attention à quelque chose qui se passe. Alors ça peut être OK, tu as deux solutions. Soit tu fixes le warning en changeant ton code. Soit tu peux désactiver le warning sur cette ligne-là spécifiquement, en disant, moi, je connais mon code, je comprends les enjeux là. Donc je sais que c'est OK. Ce que j'ai écrit est OK dans mon contexte. Tu peux le désactiver. Puis parfois, c'est aussi la règle, elle est nulle. Tu l'as dans ton cas, là, donc tu l'as désactives totalement. Ça peut arriver aussi, là. Dans les exemples concrets, c'est le configure await, par exemple.
Elles ne sont pas trop nulles, quand même.
Les warnings, non, en général, ils sont bons.
Les C-Sharp, ils sont bons. Hein.
Le compilateur en tant que tel, ouais, il n'y a pas de problème. Les CA quelque chose, c'est les code analysis. Il y a quelques-uns qui, dans certains contextes, ne s'appliquent pas. Par exemple, je vais dire le configure await, dans un projet qui n'a pas de sécurisation contexte. Complique pas ton code avec des choses qui servent à rien là. Tu peux désactiver la règle, mais faut être sûr de ce qu'on fait là. Tu peux arriver à des problèmes aussi là. Donc quand t'es sûr, ça peut être un cas.
Ouais, et pour le
vas-y Patrick.
Juste pour le treat warning as error dans le CS Proj, juste un point en passant. En général, on le met plutôt dans un directory build props, c'est-à-dire un fichier qui est un petit peu plus bas dans l'arborescence. De façon à pas, si on a 45 CS proj, on va pas le mettre dans tous les CS proj. Comme ça, on a qu'à l'activer dans un directory build props qui permet l'héritage des propriétés qui sont définies dedans. Ça permet de. Enfin, c'est juste un petit point passant, mais peut-être qu'il y a des juniors qui nous écoutent et c'est peut-être une remarque qui est importante.
C'est pertinent, oui. Moi, je vais même un petit peu plus loin là-dessus. C'est que je mets ça dans un package nugget. En fait, dans lequel je mets justement tous les build props communs que je peux, enfin tous les properties ou les targets commis que je peux avoir, aussi tous les analyzers que je peux avoir besoin. Je mets ça dans un package nugget, comme ça dans tous les projets, juste ça référence à ce package-là et j'ai ma coding standard qui est là.
Ouais, c'est intéressant ça. Et ça, c'est tu l'as publié ça ou pas?
Ouais, j'ai un blog post sur le sujet. Et puis sinon, bah, si vous voulez voir le code source de ce que moi j'utilise, là. Après chacun sa coding standard. C'est bah, vous êtes d'utiliser
Ouais.
ça là en tant que tel, mais c'est sur GitHub, il y a un projet qui s'appelait mesiantou.net.codingstandard. Je crois que c'est ça le nom là. Donc
D'accord.
les gens peuvent forker le projet et puis adapter à leurs besoins là.
Ouais, non, c'est intéressant. Et bon, petit aparté, avec le nouveau format des solutions.
Ah oui, j'en ai fait un petit blog. Ouais, c'est bien, c'est marrant, ça fait le buzz. Non, moi, tu sais quoi, c'est même pas encore officiel de Microsoft. Si tu regardes sur leur release note de Visual Studio 2022, donc 17.10, ils n'en parlent même pas encore. Mais par contre, c'est intéressant. Donc très rapidement, ils vont faire un nouveau solution. Donc maintenant, on a .SLM, qui est un format très vieux et très dégueulasse. Et on a vraiment pas envie de mettre les mains dedans.
C'est
Et
les points ini,
maintenant.
de
Ouais, c'est tout dégueulasse, il y a des aiguilles dans tous les sens. Et là, il va y avoir SLNX. Et en fait, à mon avis, c'est quand même pas quelque chose que tout le monde lit tout le temps. Mais n'empêche que si tu es dans une grande équipe et qu'il y a des conflits sur ce fichier-là, eh ben amuse-toi. Tu vois, parce que tu as des aiguilles qui référencent des aiguilles, etc. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment pertinent d'avoir quelque chose de human readable. Et après, pour tout ce qui est tooling, hein, moi je travaille dans le tooling. C'est vrai que c'est plus facile à parser. Mais bon, de toute façon, dans le tooling, on doit se coltiner le SLN, le SLNX, le SLNF, etc. On a tous les coltiner. Mais au moins, pour les nouveaux, dans quelques années, ça sera plus facile pour tout ce qui est tooling.
Ok, c'est juste dommage qu'ils n'aient pas été un petit peu plus. Enfin, c'est une preview encore, hein, peut-être que ça va venir après, mais quand tu vois, il y avait une demande, enfin, ça vient d'une demande de la communauté, et il y a d'autres alternatives qui existaient déjà, qui se basaient sur MS Build, genre le Directory Traversal SDK. Là. Par exemple, c'est du globbing pour définir tous tes CS proches et d'avoir des conditions, parce que ça se base sur MS Build, etc. Là, donc c'est. Là, le SLNX, pour le moment, il n'y a pas de globbing. Donc, tu vas devoir mettre quand même tes SLN, enfin, tes CS proches un par un dans le fichier. C'est petites features en plus qui auraient pu être nice, là. Mais on verra si ça vient. Là, c'est une
Ouais.
preview, donc l'avenir nous le
Ils
dira.
ont même, ils en parlent même pas encore. Alors peut-être que c'est encore un peu prématuré. En tout cas, je pense que ça va rester XML pour être cohérent avec tout ce qui est XML, les CS proches, etc. Donc à mon avis, vont rester. Gérald, j'ai une question pour toi. Donc, tout ton travail, donc toi, tu as fait beaucoup de ROSIN Analyzer, on va en parler. D'ailleurs, moi, je les ai utilisés récemment, on va en parler aussi. Toi, ton travail, il fait autorité à Ubisoft Montréal, puisque tu travailles là-bas.
Je travaille plus là-bas.
Ah, tu ne
Mais
travailles plus, alors
oui,
justement,
on
je suis allé
l'utilisait
sur ton
à
LinkedIn.
Ubisoft, là.
D'accord, là que tu es à Worklib, d'accord.
C'est ça, a
Et à
changé en début d'année,
Ubisoft,
là. Ubisoft, il était
d'accord.
utilisé. En fait, bah, tu vois, quand tu disais, on a un projet Coding Standard, on a le même projet Bon, on avait un projet similaire à Ubisoft. On avait aussi un projet similaire maintenant à Worklib, étonnamment. En gros, partout où je vais, on va l'introduire, là, parce que c'est tellement pratique, là. Donc, à Worklib, on n'a pas encore intégré Mirto Analyzer, là, mais ça risque de venir, là. Il y a des besoins, on dit, ah tiens, ce pattern-là serait bien de le détecter, celui-là aussi. Il bah, y a un analyzer qui le fait, là, c'est peut-être que ce serait
Je
bien
suis là,
qu'on
je suis là.
l'intègre. C'est à peu
Oui,
près.
alors justement, pour parler concrètement, donc Gérald, toi, tu as développé un outil qui est basé sur Roselyne, qui analyse justement le code qu'on peut rajouter en tant que package Nuget, et justement, il nous rajoute plein de warnings,
Pas que des warnings là, il peut aussi rajouter des erreurs ou des suggestions.
lui. Quand tu mets
Mais en gros,
deux dots comma, là, quand tu mets deux points virgule, il n'aime pas.
ouais, parce que tu as
Par
un
exemple.
statement qui est vide et
Ouais,
peut-être c'est une
ouais.
erreur, tu vois. Dans certains cas,
Ouais.
notamment dans des loops, tu fais un while quelque chose, point virgule. Ah, bah mince, c'est un statement vide là. Bref. Mais en gros, ouais, l'idée des Roselyne Analyzers, donc c'est le compilateur. Donc Roselyne, c'est le compilateur C Sharp. Il fournit des points d'extensibilité pour venir. C'est quand il va compiler, il va parser le code, il va loader tous les symboles nécessaires, va faire le binding quand il faut pour dire bah, quand tu utilises une variable, c'est quoi le type de la variable par exemple. Quand tu appelles une méthode, c'est quoi cette méthode-là exactement. Ce qu'on appelle le binding. Et donc il va faire toutes ces étapes-là avant de produire le code final, donc l'IL. Et donc il va nous permettre de nous intégrer dans ce pipeline-là de build. Donc, par exemple, on va pouvoir analyser les syntaxes Twiz, donc à savoir tout ce que tu as, tous tes fichiers C sharp tels que tu les as écrits. Tu vas pouvoir analyser tous les symboles qui ont été. Donc, un symbole, ça va être une méthode, ça va être une classe, ça va être ce genre de choses. Tu vas pouvoir analyser, avoir d'autres types d'analyses. Et donc, tu peux t'intégrer dans le build pour venir rajouter des suggestions, des warnings, des erreurs. Mais ça ne sert pas non plus que à ça. Il faut se rendre compte que quand tu utilises ton IDE, que ce soit Visual Studio ou VS Code, parce que Rider, ils ont leurs choses, ils ont déjà leur système d'analyse et de fixtures. Mais par exemple, quand tu utilises un refactoring pour, par exemple, convertir une méthode en... C'était une méthode qui est en mode bloc, mais en fait, tu as juste à rajouter dedans, tu peux faire une expression à la place avec une petite flèche. Bah, ça, en fait, c'est un analyzer derrière. Juste que certains analyzers servent juste à faire du refactoring, ils ne sont pas vraiment très utiles autrement. Donc, ça, tu vois, les analyzers servent à la fois pour fournir des fixtures dans l'IDE, mais aussi t'aider à découvrir des nouvelles fonctionnalités de C-Sharp ou détecter des patterns qui sont dangereux. Enfin, donc, c'est vraiment le scope de ce qu'on peut faire avec des analyzers. Et un point très important avec les analyzers, c'est qu'il y a une fonctionnalité annexe qui est les code fixeurs. Enfin, dire, ce pattern-là, je peux le remplacer automatiquement par quelque chose de... si c'est pas en plus utiliser des nouvelles fonctionnalités de C-Sharp, il prend ton code et il remplace ton code par une nouvelle fonctionnalité. Quand tu as certaines choses, ça peut te rajouter un attribut, ça peut être plein de choses en fait, qui permettent de fixer ton warning. Ça. Donc, c'est comme ça, tu peux fixer très rapidement tous tes problèmes quand c'est supporté.
Ouais, et ça a l'air un peu magique, quoi, parce que
Ça l'est, hein.
Ouais. ça peut faire des choses, comme tu disais, je veux dire, par exemple, tu fais une property get, tu mets juste les accolades de get et il te propose la syntaxe avec le égal supérieur, là. C'est vraiment magique, quoi.
Ouais, mais en fait, c'est ça. Roselyne te donne vraiment accès à tout. Enfin, quand tu écris un analyzer, tu as vraiment accès à tout. C'est-à-dire, tu as le syntaxe Twiz qui est déjà parsé. Donc, tu sais exactement, tu connais à l'espace près ce qu'il y a dans le fichier. Ouais. Tu es capable d'aller dire, moi, je suis intéressé. J'ai envie de faire un analyzer qui va détecter que quand tu fais un commentaire, ça commence bien par une espace, par exemple. Ouais. C'est des choses que tu peux faire facilement. Tu vas juste t'intéresser aux commentaires. Enfin, c'est trivial. Bref, ça peut avancer là, mais. Tu as vraiment accès à toutes ces informations-là, y compris ce qu'on appelle le sémantic model, qui est pas que tu as la syntaxe, c'est vraiment ce que tu as écrit dans le fichier, et tu as la sémantique, ce que ça veut dire. Tu vois. Quand tu écris par exemple une variable, tu déclares var toto égale 1, var, en fait, dans la syntaxe Twiz, c'est juste var, tu ne sais pas ce que c'est le type, et dès que tu utilises le sémantic model, il va dire, ah ok, vu que c'était égal 1, tu as bien déclaré une variable, et son type, c'est un type int.
Ça a été inféré à un int. Ouais, d'accord.
Ça apparaît quand tu déclares une méthode, tu as plusieurs façons de déclarer des méthodes. Quand tu utilises le sémantique modèle, là, tu récupères juste la définition parsée de ta méthode en disant c'est une méthode, elle envoie tel type, elle a tel paramètre. Pas ce qu'elle fait là, mais au moins tu as sa déclaration complète. Donc ça donne vraiment accès à toutes ces choses-là. Tu as accès à toutes les références de ton assembly, donc quel DLL tu références. Faut bien comprendre que Roselyne ne connaît pas le son de package Nugget, par exemple, ou autre. Il a juste accès au DLL.
Aux références, ouais.
C'est ça. Les packages Nugget et certaines choses comme ça, c'est vraiment MS Build en amont qui gère ça. Tu as accès au son de compilation aussi. Est-ce que tu cibles C-Sharp 12, 13, 7, tu vois, c'est des choses que tu peux avoir. Notamment quand tu fais les analyzers, ça peut être utile quand tu veux proposer une nouvelle fonctionnalité. C'est de changer ton code pour essayer une nouvelle fonctionnalité de C-Sharp. Si tu target C-Sharp 7, tu vas peut-être désactiver ta règle. Donc, tu peux être très, très précis sur ce que tu reportes grâce à tout ça.
D'accord.
C'était peut-être pas clair, mais Roselyne est totalement open source.
Oui.
Oui.
Et ça, c'est très pratique, parce que c'est très mal documenté. Donc, c'est bien de voir leur code.
Oui, pour les gens qui font les analyzers ou même les gens qui veulent se les faire pour eux-mêmes ou qui s'intéressent, parce que c'est très intéressant, même pour des étudiants, le fait que ce soit open source, c'était un gros changement de philosophie. Moi, je me souviens, juste en aparté, en 2008, tu étais là, je crois, Richard, on était à Redmond. Voilà, ils ont commencé à parler de Roselyne. Il le commençait déjà, donc 2008, là, on est à 16 ans. Il est sorti en RTM en 2015, je me souviens. Donc déjà, il travaillait en 2008 déjà, il travaillait même beaucoup. Bon, ça leur a pris beaucoup de temps parce qu'avant, leur compilateur, il était C++ totalement closed. Et là, ce dont parle Gérald, c'était de la science, ça n'existait pas. Il y avait quelques modèles universitaires qui marchaient très mal, mais maintenant, le fait que ce soit open source, ça a vraiment tout changé. Donc, pour ceux qui sont intéressés, ça vaut vraiment le coup de le télécharger et de s'amuser avec.
Surtout, je pense que c'était aussi un des tout premiers compilateurs qui était vraiment ce qu'on appelle un compilateur moderne. C'est-à-dire qu'avant, un compilateur, comme celui qui existait avant, ça prend ton input, ça génère l'output, c'est black box complètement. Ce qui fait que tous les IDE devraient implémenter leur propre parseur aussi pour pouvoir fournir des fonctionnalités. C'est tout ce qu'on s'attend, je sens les refactoring, l'autocomplete, etc. C'est important que les IDE les aient. Mais comme les compilateurs étaient black box, ils réimplantaient les mêmes choses. Là, ouais. C'est un des tout premiers compilateurs qui a été vraiment ouvert. Ce qui fait que les IDE, maintenant, peuvent juste dire « Regarde, je suis à tel caractère, on me demande de fournir de l'autocomplete. C'est quoi les symboles que j'ai droit ?» Puis là, maintenant, c'est le compilateur. Il n'y a plus qu'une implémentation de tout ça. C'était vraiment cette modernité qui était intéressante.
Oui, ils l'ont appelé « compiler as a service » au moment où ils l'ont lancé. Quoi. Et c'est vrai que ça résume bien
la chose. Tous les compilateurs sont faits sur cette architecture-là, au final.
Ouais.
C'était à la mode, hein, as a service aussi. Maintenant, peut-être qu'ils vont mettre AI, je ne sais pas. Compiler AI, c'est à la mode. Il y a des modes comme ça dans notre métier.
Ouais, enfin, Roslim Copilot.
Ouais, voilà, il y a un peu de ça.
Donc Gérald, toi, tu proposes ton outil, il s'appelle, c'est le Measure to Analyzer.
C'est ça, moi, ce que je recommande toujours aux gens avant de s'intéresser à cet outil-là, commence par .NET fournit déjà les analyzers built-in. Donc, tu as le compilateur qui fournit les analyzers. Souvent, le compilateur, ce qu'il fournit, c'est vraiment juste utiliser la nouvelle syntaxe de C#. Donc, les choses qui maîtrisent bien, parce que c'est pas ceux qui le font. Ouais. Mais à côté de ça, dans .NET, tu peux activer des analyzers qui sont built-in. Enfin, juste en rajoutant dans le CS Pro, je crois que c'est analysis level ou analysis mode. J'ai un petit doute sur le nom, mais il y a une belle documentation sur le sujet. Mm-hmm. Et donc ça active tous les règles qui commencent par CA, donc Code Analysis, et il y en a beaucoup, et elles sont très pertinentes. Et chaque version de .NET rajoute des nouvelles règles, donc je conseille vraiment de commencer par activer ça.
C'est l'ancien FXCope, non ?
Ouais, mais qui était modernisé justement, qui maintenant fonctionne.
Donc moi, quand tu importes un analyzer, encore une fois, la même remarque, tu peux... Au lieu de le mettre dans tous les projets, bam, tu le mets dans ton directory build props et tous tes projets ont les analyzers.
Ouais, exactement. Ouais. Et donc, moi, j'ai justement commencé le Measure to Analyzer quand FXCope était mort et qu'il n'y avait pas vraiment de nouvelles solutions. Je me suis dit, on a besoin de quelque chose là. Et puis, je trouvais ça intéressant comme sujet. Là. Donc, je m'étais dit, je vais commencer à implanter quelques règles. Et puis, de quelques règles, on arrivait à 150, je crois, à peu près. C'est l'ordre de grandeur au moins. Je n'ai même plus le compte moi-même, donc c'est que ça en fait beaucoup. C'est ça, mais pour plein de choses, en fait, dès que je vois, quand on fait des code review, quand on écrit du code, on dit « ça serait bien si ça pouvait me le détecter automatiquement, que je ne perde pas mon temps ». Parce que ce qui est intéressant, c'est que le Rosin Analyzer, il n'attend pas d'arriver, tu n'as pas besoin de faire ta PR, d'avoir une code review, d'avoir un CI qui tourne, ça tourne sur ta machine dès que tu écris un caractère.
Ouais.
Donc tu tapes sur une touche, tu as fait quelque chose, c'est souligné, tu le sais tout de suite là. Donc on parle souvent de « shift left ». Pour dire de décaler tout le plus tôt possible, c'est clairement ça. Donc, c'est pour ça, dès que tu trouves des choses, tu dis, tiens, ce pattern-là, ce serait bien de le détecter. Il faut penser aux analyzers, si tu peux. Ça. Donc, c'est pour ça que je suis arrivé faire à mesure. Là. J'en rajoute.
Moi, la problématique que j'ai vue, entre guillemets, c'est par exemple, tu avais dans les analyses, tu avais le configure await à false à mettre systématiquement.
C'est dupliqué un petit peu maintenant avec ce que CA, enfin les règles de code analysis built-in peuvent faire. Là. C'est pour ça que j'ai une documentation qui documente aussi toutes celles qui sont dupliquées maintenant. Certaines ne sont pas exactement dupliquées non plus. Ils sont des fois moins loin dans certaines règles. Donc, ça peut valoir le coup de plutôt désactiver la règle built-in pour utiliser la mienne à la place, dans certains cas. Après, il faut se rendre compte aussi que la performance est très bonne, que ce soit les CA ou les Measure to Analyzer, là, les MA. En termes de performance, on est c'est quelques millisecondes, voire quelques secondes, mais secondes parallélisées. Là, donc, ça peut aller très, très vite.
Ouais, même ça sur des gros projets, ça fait pas beaucoup de charge. Vite, hein. Ouais.
Ça. contrairement à certains analyzers dont on verra le nom, qui peuvent rajouter des minutes de build parfois, mais vraiment des minutes. Hein.
Ouais.
Donc, ça. Donc, c'est pas forcément gênant d'avoir direct dupliqué quand elles sont très très rapides. C'est juste, bah, c'est dommage, tu as deux lignes dans ton error window, mais bon, quand on fixe une, ça fixe l'autre avec.
Et alors, pour si on détecte une nouvelle règle qu'on voudrait imposer, c'est facile de rajouter une nouvelle règle sur ton analyzer. On fork ton projet et puis après.
Bah, déjà, c'est un projet open source, donc déjà tu peux commencer par avoir une issue.
Ouais.
C'est parce que toi tu as un besoin qu'en fait c'est un besoin général. Là.
Ouais.
Donc ça peut valoir le coup d'en discuter avant de commencer à implanter quoi que ce soit. Après, je recommanderais aussi aux gens, plutôt qu'avant de commencer à avoir une issue dans le projet de Microsoft, c'est ce que bah, tout le monde utilise justement les règles de built-in. Enfin, la grande majorité des gens l'utilisent maintenant. Donc, si ça peut être mis dans ces règles-là, c'est encore mieux, parce que tu touches à une audience beaucoup plus large. Mais après, c'est vrai qu'il y a des choses qui se peuvent... En gros, eux, ils ne s'autorisent pas à mettre des règles qui sont valides que dans 50% des cas. Il va falloir que ça touche le 95 ou plus pour cent des utilisateurs là, pour qu'ils commencent à activer une règle. Alors que moi, ça peut m'arriver d'être plus flexible à ce niveau-là. Mais parfois, j'ai aussi quelques règles, par exemple, qui sont désactivées par défaut, mais que je vais activer que, bah, je me dis, ah là, j'ai envie de tester, voir ce que ça donne dans un projet, je l'active temporairement pour trouver certains patterns, mais juste pour trouver toutes les locations que je vais avoir à reviewer une fois de temps en temps. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelques règles qui sont disabled par défaut. Ah, donc, c'est, tu vois, le niveau de qualité n'est pas le même, tu vois.
Et une question, toi qui connais bien, tu utilises Editor Config quand tu veux changer quelque chose ou... D'accord.
Ouais.
Maintenant, c'est le standard. Ouais,
c'est le standard. Et justement, aussi, bah, dans ma coding standard, j'ai toutes les règles qui sont configurées comme je veux là, pour d'accord. tous mes projets. Et après, dans chaque projet, des fois, tu peux overrider des règles. Dans ce projet-là, j'ai un contexte spécifique, donc je peux désactiver telle règle ou je peux activer celle-là. Là. Tu viens tweaker un petit peu. Ça fait que j'ai des fichiers editor config qui sont très petits dans mes projets en général.
Alors, pour rappeler, là, le edit config.
En fait, c'est quelque chose qui n'est pas du tout .NET. C'est quelque chose qui a émergé dans toute la communauté software, Java, Python, etc. Et que Microsoft a fini par adopter puisque c'est pratique et maintenant c'est bien connu. Ben c'est pareil, c'est un peu comme le directory build pour Ops, c'est-à-dire que tu remontes jusqu'à trouver pour avoir des caractéristiques, mais là, par contre, ça concerne l'éditeur de code, comme dit son nom, donc notamment, par exemple, les règles Rosin Analyzer qui vont s'appliquer. Et typiquement, ben, tu entres du texte dedans. Alors, la syntaxe, elle n'est quand même pas top. Hein. Moi, je crois qu'ils auraient pu faire mieux quand même pour les Rosin Analyzer. Je sais même plus trop. Enfin, de tête, faut que je la retrouve quelque part. Par contre, Visual Studio, les autres idées aussi, peut-être, les Visual Studio ont mis une petite UI dessus, à la façon Microsoft. Hein, comme ça, on n'a pas trop à faire d'édition manuelle. Hein. Oui, c'est un peu leur marque de fabrique de mettre des text box et tout ça, plutôt avec des combo box et tout, plutôt que de tout faire à la manuelle, ce qui est bien. Hein, moi, j'aime bien. Et donc voilà, c'est très pratique. Il y a juste une toute petite subtilité, très rapide. L'éditeur config remonte, contrairement au directory build prop. Attends, enfin, y a l'un qui remonte et l'un qui remonte pas.
Ouais, dans l'éditeur config, tu mets isRoot qui dit que tu as arrêté de remonter pour les merger.
Typiquement, tu mets isRoot parce que si tu as mis ton projet dans un directory que tu ne maîtrises pas du tout, tu n'as pas envie que ça remonte jusqu'à peut-être à trouver des trucs qui vont te mettre un peu la panique. Mais voilà, alors que par défaut, le directory build prop, lui, ne remonte pas. Dès que tu en retrouves un dans ton arborescence, ça s'arrête. Alors que l'éditeur config, lui, continue. Donc, il faut juste préciser root égale 3.
Et donc, tu mets quoi comme truc là-dedans?
En gros, ton éditeur config contient toutes les règles de style. Donc, par exemple, est-ce que tu préfères utiliser var ou un type explicite? Est-ce que tu veux utiliser des expressions plutôt que des méthodes blocs? Est-ce que tu veux...
C'est quoi ta coding naming convention?
Toutes ces choses-là sont définies là-dedans. Là.
D'accord.
Ça fait potentiellement beaucoup de règles, enfin, beaucoup de petits settings à les setter. Et tu peux aussi configurer tes analyzers. Que tu désactives un analyzer, changer ça. C'était peut-être un warning, tu veux que ce soit une suggestion à la place, tu peux le setter là-dedans. Et d'accord. Certains analyzers sont aussi des... c'est juste un... L'éditeur config, c'est vraiment key value, là. Ça peut être n'importe quoi, égal, n'importe quoi. Et un analyzer peut aller lire cette configuration-là. Donc, certaines règles peuvent aller lire des valeurs spécifiques dedans aussi.
Par exemple, tu as to-do en commentaire. Si tu veux mettre autre chose qu'un to-do, bah, tu peux mettre ce que tu veux utiliser à la place de to-do.
Oui, to-do ou avec les initiales de celui qui doit faire.
Par exemple.
Ouais.
Imaginez, ça se peut faire que sur sa machine.
Voilà.
Et donc tout ça, Richard, ça fait que sur sa machine, c'est génial.
J'en ai déjà suffisamment, ça suffit. Et donc tout ça, ça peut générer des warnings supplémentaires au niveau de la compilation, quoi.
Ouais.
Ok.
Dev.net. Richard Clark.
Bien, je pense qu'on a vu à peu près donc cette première approche. Donc cette première approche, c'est vraiment de l'analyse de code, de voir si la syntaxe, s'il y a des règles qui sont bien suivies au niveau de la syntaxe. En revanche, avec NDPen, toi tu vas un petit peu plus loin, même beaucoup plus loin, si on peut dire.
Plus loin, ça dépend. Non, je dirais pas.
Si, bon, allez, vends ton truc.
Comparer, c'est complémentaire et ça se marie bien, en fait. Donc, NDPen, moi, c'est un projet open source que j'ai commencé. Je m'en rends compte il y a 20 ans. Hein, c'était en avril 2004. Tu vois, ouais. un peu comme tu faisais. Ouais, ça ne nous rajeunit pas. Un peu comme quand toi, tu étais dans une grosse boîte, moi aussi. Ben voilà, on se disait, bon, ben, à un moment donné, il faudrait un peu régler la panique, etc. Ça va dans tous les sens. Donc, c'est devenu open source. Et puis, quand j'ai vu que ça a plu la communauté, ça est devenu commercial en 2007. Et donc, NDPen, c'est différent. Et j'ai eu peur à un moment donné que Roslyn, quand Roslyn est arrivée, donc en 2015, que ça pouvait le balayer. Mais en fait, non. Non, parce que, en fait, c'est différent. NDPen, lui, il a un plus haut niveau sur certaines choses. Mais par contre, il ne va pas aussi bas niveau sur d'autres choses. Donc, très concrètement, NDPen, il peut t'importer des informations de couverture de code, par exemple. Il peut t'importer des informations de baseline, c'est-à-dire que tu peux définir une baseline. En général, c'est la dernière version que tu as en production. OK. Et il a aussi toute une connaissance de ton code, mais moins fine que ce que tu peux voir avec Roslyn. C'est clair et net, l'idée, ce n'est pas du tout de concurrencer Roslyn. OK. Donc, NDPen, il est plus fort sur tout ce qui est dépendance, puisque, comme le nom l'indique, donc il a vraiment un modèle très très rapide pour faire tout ce qui est dépendance. Il va te détecter des dépendances circulaires, ok, que tu veux pas forcément entre tes différents composants, si c'est des namespaces ou des ensembles de classes, etc. Donc il a toutes ces fonctionnalités. Il a aussi tout un gros pan de fonctionnalités sur tout ce qui est métrique de code. Tout ça clairement c'est atteignable hein, par Roslyn, mais ça l'est pas par défaut. Il faut vraiment écrire beaucoup de choses au-dessus de Roslyn pour avoir ce que NDPen, lui, a out of the box, a directement, en fait. Donc, en fait, ça met un layer plus haut, pas dans le sens mieux, mais dans le sens, tu as des informations à propos de ton code que tu vois de plus haut. OK. Et à côté de ça, il y a pas mal de features différentes, type visualisation de code. Tu peux très rapidement faire un graphe faire un graphe de tout ton code. Même là j'en ai sorti un dans un blog post de lundi. Ça fonctionne très bien sur les très gros projets. Ça carrément sur tout Visual Studio, quoi. C'est Visual Studio, c'est plus de 230 000 classes. Je vais éteindre le tel. Visual Studio, c'est 230 000 classes. C'est juste délirant, la taille du projet. Et excusez-moi.
Oui, il y a plus une approche architecture du projet.
Voilà, architecture, structure, qualité au sens métrique, qualité au sens, par exemple, les métriques de Robert Cécile Martin, donc le papa des patterns solides, etc., des principes solides, donc des métriques qui vont te dire « Ah ben, cette assemblée contient que des… Ben, ce projet contient que des interfaces, mais il n'est pas du tout utilisé, donc il ne te sert à rien. » Ou alors… Alors, ce projet-là, tout le monde l'utilise, mais il n'y a pas du tout d'interface. Et ça, ce n'est pas bien du tout, parce que dès que tu vas changer quelque chose, tu vas casser tout le monde. Imagine, par exemple, la classe String, par exemple. Imagine, il change des choses dedans. C'est un cauchemar. Tout .NET dépend de String. Donc, tu vois, il va te sortir. Bon, bien sûr, String, c'est différent, c'est le framework. Mais c'était un exemple pour te montrer que tu veux séparer, tu veux utiliser l'abstraction pour tout un tas de raisons, mais tu veux aussi utiliser l'abstraction pour rendre ton code maintenable, en fait, pour ne pas avoir à trop réfléchir qu'est-ce qu'il y a derrière tes interfaces. Donc, tout ça, IndiePen, il a tout un ensemble de règles par défaut qui vérifient ce genre de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Link est sorti, hein, c'était en 2008, ça a mis 2-3 ans, mais on a rebasé tout le système de règles sur Link, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, avec IndiePen, une règle, c'est simplement une Link Query. C'est une C# Link Query. Et avec ça, tu peux faire le query de ce que tu veux. Par exemple, une règle moi, que j'aime bien, c'est dis-moi les classes qui étaient 100% couvertes dans la baseline, mais qui ne le sont plus. Tu vois, là, tu vas vraiment trouver des trous dans tes tests, c'est-à-dire que la classe a certainement été modifiée, à moins que ce soit les tests qui ont été modifiés. Avant, tu es content, elle était toute bien couverte, donc tu savais que s'il y a un bug qui était trouvé, il était facile à tester, à reproduire, etc. Et boum, il y a quelque chose qui a changé et maintenant, elle est plus couverte. Tu vois, ça, c'est pas du tout des règles type Roslyn. Tu vois, et une règle comme ça, tu fais appel à du coverage, tu fais appel à de la baseline. Tu peux aussi faire appel à tout ce qui est des noms. Typiquement, tu peux. Il y a beaucoup de règles de naming. Une des plus essentielles, c'est que les interfaces doivent commencer par I. Avec IndiePen, c'est assez facile de vérifier. C'est une interface, elle ne commence pas par I. Alors ça, effectivement, ça existe déjà dans Roslyn, ce qui est tout à fait normal. Mais par contre, tu peux faire très facilement les tiennes. Parce que très facilement, tu fais une petite query C# Link avec le petit modèle d'IndiePen qui est, je pense, assez facile à démarrer avec. Et donc, tu peux faire tes règles très facilement. En plus, les règles, tu n'as pas à les compiler tout ça, c'est juste du texte. Et IndiePen a tout son moteur qui te permet de prendre les règles et de les compiler à la volée, que ce soit dans l'IDE, dans le standalone ou dans ton CICD. IndiePen compile tout à la volée. Tu n'as pas à te faire du versionning, tu vois, parce que tu as ce petit côté quand même un peu projet assembly que tu as sur NuGet Package, que tu as sur les Roslyn Analyzer qu'il faut mettre à jour, etc. Alors qu'IndiePen, c'est juste un texte qui est sauvé dans le projet ou dans un fichier de règles, etc. C'est que du texte, en fait. Ça me paraît assez intéressant.
C'est une requête SQL, quoi.
Sur ton modèle. C'est une requête Link. C'est une requête Link sur le modèle d'IndiePen qui va te sortir ce que tu veux. Et ce qui est intéressant, c'est que...
Tu vas pouvoir utiliser Copilot, un modèle d'IA comme tu veux, comme ça, les gens pourront taper « je veux rechercher toutes les interfaces qui ne commencent pas par I » et ça te fera la conversion.
Oui, on y est là, on joue avec ça, on ne va pas trop en parler pour l'instant. De toute façon, maintenant, tu n'es plus bankable, hein, tu n'as plus IA dans ton produit.
Oui, ça n'existe plus. Comme ça.
Mais oui, figure-toi que pas plus tard qu'il n'y a pas très longtemps, on s'est rendu compte que ça marchait plus que très bien. Donc, dans les prochaines versions, il y aura des choses comme ça. Mais oui, ça marche étonnamment bien. Je crois qu'on est tous étonnés tous les jours par les capacités de l'IA. Et c'est vrai que tu fais des queries en langage naturel et ça te sort des trucs assez incroyables. Donc, c'est un peu le sujet du moment. Donc ça c'est à venir, c'est vraiment intéressant. On n'en avait pas parlé avant, hein, donc bien deviné. Et pas du tout, on ne s'était pas du tout concerté. Mais par contre, le travail qu'on a fait les deux dernières années, on a fait beaucoup de travail sur tout ce qui est le reporting, parce que le reporting, c'est la façade web donc de IndiePen, plutôt que d'avoir une approche type serveur qui est à mon sens assez complexe. Voilà, tu dois avoir une database quelque part et puis coûteuse aussi. Quand on voit les prix à 6 ou 7 digits que certaines compagnies proposent. Après, bon, il y en a qui payent aussi, mais c'est peut-être qu'ils ne savent pas qu'il y a des choses plus faciles derrière et moins coûteuses. Mais nous, on fait simplement un rapport. Tu as juste à invoquer indiepenconsole.exe. Tu as tous tes fichiers projets, etc., qui contiennent tout ce qu'il faut, la baseline, le coverage, tout ce que tu veux, tes règles, etc. Et derrière, ça te sort un rapport très léger qui contient tout et qui contient aussi le source code et qui contient aussi le div du source code si tu as une baseline. C'est-à-dire que dans ton rapport web, tu as tout. Tu peux voir vraiment le coverage, les différences, tu peux voir les règles. Et maintenant, depuis la dernière version sortie il y a un mois tout pile, c'est le 25 mars, je crois. Et maintenant, on importe aussi les rosines et les lasers. Et ça, ça nous permet d'avoir, d'être à 360 sur tout ce qui est .NET. C'est-à-dire de pouvoir tout faire, en fait. Hein, parce qu'en fait, avant, nous, on faisait tout ce que j'ai décrit avant, mais on ne faisait pas le Rosin Analyzer qui va aller te détecter que là, tu captures une variable dans une lambda et que ça serait bien que tu ne la captures pas comme ça. Des trucs très, très fins. Ça, moi, j'aime bien le Rosin Analyzer quand j'ai des warnings comme ça parce que ce n'est pas des choses évidentes. Et effectivement, au runtime, ce n'est pas tout à fait forcément ce que toi, tu t'attendais. Quand je parle de capture de variables dans les lambdas, je sais que c'est un truc... qui parfois peut mettre des nœuds dans le cerveau, y compris quand on a des dizaines d'années d'expérience. Donc, pour ça, c'est très bien. Et nous, on est contents maintenant parce qu'on importe aussi les Rosin Analyzer. Donc, on importe les Mesiantoo, on importe les Code Analysis. Il y a aussi la suite Rosinator qui est assez populaire. Il y a aussi la suite gratuite de Sonar aussi, de Rosin Analyzer qui sont assez populaires. Donc, il y a tout un tas de suites très populaires et très bien maintenues. Et très rapide pour certains, comme Mesiantoo, mais pas pour tout le monde. Mais c'est-à-dire qu'il y en a, tu n'as vraiment pas envie de retourner en 1998, aller te faire un café pendant ton build, comme on faisait avant quand on était sur du C++. Hein, ça, je ne sais pas, pour certains. Bon, certains n'étaient pas nés, mais certains s'en souviennent. Donc, on n'a pas envie de revenir à ce niveau-là. Donc, enfin, en tout cas, après, dans tout ce qui est CICD, c'est assez intéressant. Nous, on arrive à importer tout ce qui est les Rosin Analyzer. Et donc, voilà, donc on est vraiment complet. On se récupère toutes les règles de sécurité qui existent. Les SAST, hein, ils appellent ça Software as a Security, le T, je ne sais plus. Mais, enfin, donc, toutes les règles de sécurité, etc., des trucs qu'on ne touchait pas forcément avant. Donc, c'est assez intéressant. Ça permet vraiment d'avoir un rapport complet. Aussi avec
des fichiers Sarif, je suppose.
Alors oui, tout à fait. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, toujours pareil, ça se passe au niveau du CSproj, mais tu utilises un directory build props pour, je crois que c'est error logs. Bon, dans la log, ouais. C'est tout documenté. On a même un bouton, t'appuies et ça fait tout pour toi, comme ça tu t'embêtes pas dans le project property, mais ça te génère le error log. Et là, tu vas donner un directory, tu vas mettre une petite variable avec le msbuild project name, ok. Et ça, pour chaque projet, donc chaque CSproj, ça va te générer un fichier SARIF. Donc un fichier SARIF, c'est quoi? C'est simplement un fichier JSON qui est totalement standardisé. Là aussi, c'est pas que Microsoft, c'est toute l'industrie qui fait du SARIF. Donc SARIF, c'est vraiment statique, analysis, je ne sais plus trop quoi, mais c'est vraiment un modèle qui est partagé par toute l'industrie. Donc, nous, on n'émet pas encore du SARIF, mais on va le faire assez rapidement. Mais par contre, on importe du SARIF. Donc, on peut imaginer quelqu'un qui ne fait pas que du Rosin Analyzer, mais qui obtient du SARIF à partir d'autres choses, ben, on sait l'importer aussi, en fait. Sauf que pour l'instant, quand même, dans le monde Microsoft, c'est quand même du SARIF, du Rosin Analyzer, SARIF. Donc voilà, ça génère des fichiers. Nous, derrière, on est capable de l'importer. On pense que c'est intéressant d'avoir un point SARIF, comme tu peux avoir un point VS pour tous tes petits settings Visual Studio, etc. En général, tu as les points Git, point GitHub, etc. Donc, je pense que c'est intéressant d'avoir du point SARIF. Encore une fois, tout est facilement configurable. Et derrière, nous, on importe tout. C'est royal, en fait. Et ce qui est intéressant, alors juste un point très intéressant, c'est que nous, on a la baseline, c'est-à-dire qu'on se souvient des issues d'avant, ok, et quelque chose qu'on apporte vraiment au Rosin Analyzer d'aujourd'hui, c'est qu'on va dire, ben là, tu as une nouvelle issue et là, tu as une issue fixée. Parce qu'à l'instant T, à moins d'avoir d'autres produits concurrents qui ont même leur gros serveur, etc., mais si dans ton IDE, VS Code, alors Rider, c'est toujours un peu différent parce qu'ils sont... Ils ont tous leur propre compilateur, leur propre système de règles, etc. Mais là, je parle essentiellement de VS Code et de Visual Studio. Tu as tous tes issues, mais il ne va pas être intelligent dans le sens où il dit « Ah, bah, tu viens de rajouter celle-là. » Tu vois. Et pourtant, c'est une information qui me paraît assez cruciale. Alors qu'Andy Penn, lui, il va te dire bah, « Nous, on va te donner, depuis ta baseline, on va te dire bah, « Ceux-là, ils sont nouveaux. » Donc, je pense que c'est un vrai raffinement apporté au Rosin Analyzer. Parce que typiquement, la bonne façon de traiter la qualité, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres, c'est de se concentrer sur le delta ouais. récent. Ouais. Pourquoi ? Parce ouais. qu'on travaille tous sur des projets immenses, et ces projets immenses, ils te génèrent un tsunami de problèmes existants. Seulement, ce tsunami de problèmes, ils sont en production déjà. Et la production a montré qu'a priori, ça marchait. Il y a toujours quelques bugs par-ci, par-là. Enfin, ça dépend. Il y a des shops plus sérieux que d'autres. Mmh. Mais en général, le shop sérieux, l'ISV sérieux, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire en sorte qu'en production, il n'a pas de bug. Ça veut dire que tous tes issues qui sont arrivées en production, ça serait bien de les corriger, mais ça va être très coûteux. Et puis surtout, tu ne vas pas résoudre des choses essentielles. Alors que par contre, dans le code nouveau, dans la nouvelle classe, dans la classe que tu as refactorée, si là, tu as des problèmes, ça vaut vraiment le coup de regarder ceux-là, de problèmes, en priorité, parce que c'est là où tu vas peut-être vraiment introduire quelque chose d'embêtant et un vrai nouveau bug, un vrai performance pain ou quoi, un vrai coup performance. Et c'est, ouais.
Ouais, non, j'allais dire, le vrai, pour moi, le vrai plus, c'est que justement, c'est ce rapport final que tu peux générer et qui pour moi est crucial pour soit le chef de projet, soit le responsable du projet, quoi, qui peut voir l'évolution dans le temps, qui peut voir effectivement, on a eu tant d'issues qui ont été fixées dans le temps du projet. Que la dette technique, elle était à 5 jours, maintenant elle est diminuée à 2 jours, etc. quoi.
Donc, avec un système aussi, j'en ai pas, il y a deux petits trucs que je vais mentionner, un système de ce qu'on appelle un quality gate, c'est-à-dire qu'en fait, c'est bien beau d'avoir des issues, mais quand est-ce que tu sais que ça devient problématique ? Parce que typiquement, tu en as 300 ou 3000 ouais. et tu es un peu noyé. Alors qu'un quality gate, c'est quoi ? C'est un peu une espèce de règle sur les règles, on va dire. C'est quelque chose qui est encore plus haut niveau et qui va te dire, par exemple, un quality gate, ça peut ressembler à je ne veux pas une seule nouvelle issue, donc nouvelle dans le sens nouvelle depuis la baseline, j'en veux pas une seule qui a une sévérité plus haute que high, par exemple, plus haute que hot. Mm-hmm. Tu vois, tu dis ça, j'en veux pas. Et le quality gate, il va servir à quoi ? Il va servir soit à fail de build. Ou alors à faire une action assez importante, type envoyer un email ou un SMS à la bonne personne, etc., pour dire « Ah, là, celui-là, on l'a violé ». Les quality gates intéressants aussi, c'est sur le coverage. Je ne veux pas que les nouvelles classes elles aient moins de 90%. Enfin, moi, j'aime bien mettre carrément 100%, à part pour d'autres classes type graphique, etc. Mais tu vois, tu peux écrire des choses comme ça. C'est-à-dire que tu peux expliciter vraiment ce qui est important pour toi. Alors, bien sûr, il y a des défauts quality gate. Et ce qui est intéressant avec IndiePen, c'est que les quality gate, comme tout le reste dans IndiePen, c'est des C# link query. Donc, c'est-à-dire que ça peut faire le query sur ton modèle, ça peut faire le query sur ton coverage, ça peut faire ton code modèle, hein, je veux dire. Ça peut faire du query sur la baseline, ça peut te retourner les nouvelles méthodes, les méthodes modifiées, etc. Ça peut te faire des queries sur les issues. OK, donc ça, c'est en méta, tu es en mode quality gate. Donc, c'est là que tu vas faire des queries sur les issues. Ça peut faire des queries sur les règles. Par exemple, tu as des règles qui sont flaguées comme critiques. Donc, tu peux avoir un quality gate qui dit « je ne veux pas de règles critiques qui soient violées ». Tu vois, des choses comme ça. Donc, ça, ça veut dire. Et la deuxième truc très rapide, tout ce qui est trending aussi. IndiePen, donc, il est aussi fort pour les métriques de code. Et il est très fort aussi pour te faire pour loguer des métriques à travers le temps. Et derrière, il va te produire des chartes. Et les métriques, typiquement, ben, ça peut être des issues d'une certaine sévérité ou des nouvelles issues depuis la baseline, etc. Donc, ça reste des métriques, donc des scalaires. Et derrière, ça va créer des chartes. Et pour le project manager, il va pouvoir suivre ces chartes et voir où il en est.
Juste un truc là, donc IndiePen, donc c'est un outil, donc on va rentrer dans les trucs qui fâchent au niveau des licences. Donc il y a une licence par développeur, et puis il y a une licence aussi pour la build, je crois.
Voilà, build, ce qu'on appelle build machine, on aimerait bien la renommer reporting, hein, tout simplement, puisque c'est pour faire du reporting. C'est toujours un peu délicat de renommer et d'embêter tout le monde. J'aime pas là, tu as plein d'abonnements de tous les côtés et puis tous les jours ouais. tu reçois nous on a changé ci, mais on en a rien à foutre que tu as changé ça, tu vois. Donc on évite de trop embêter les gens quand ils sont habitués à une terminologie. Et donc, on a ce qui est build machine, donc reporting. Donc, il y a une licence qui est pour faire du développement. Donc, le développement, c'est soit tu es dans Visual Studio avec l'extension, soit on a un standalone, donc c'est sur Windows. On a un standalone sur Windows qui a toutes les features de la Visual Studio Extension, mais qui peut aussi travailler côte à côte avec Rider et Visual Studio Code. Okay. Mm-hmm. On n'est pas encore capable d'avoir cette version-là sur Linux et Mac pour une bonne raison, c'est que Microsoft ne nous a pas fourni un framework d'UI multiplateforme de ce nom, digne de ce nom. Il y a MUI, mais quand je vois le MUI, il essuie beaucoup de critiques, donc je vais pas décider qu'on aille là-dessus. Tu as Avalonia et Uno qui ont très bonne presse, mais c'est un petit peu compliqué de baser tout ça. Et peut-être qu'on se dit à l'avenir que carrément faire du web, puisque maintenant tout est en web de toute façon.
Ouais.
Donc on va voir, tout ça c'est à réfléchir, c'est beaucoup de travail. C'est pour ça qu'on a travaillé sur tout ce qui est aspect web, reporting. Par contre, pour tout ce qui est reporting, juste un point, ça marche, le reporting, tu peux le faire sur du Linux, sur du macOS ou sur du Windows. Ça marche sur toutes les plateformes, puisqu'en fait on supporte, on tourne sur .NET 6, .NET 7, .NET 8, tout ça, c'est pour nous, c'est une remarque intéressante peut-être. La plupart de notre code est en .NET standard 2.0. Tout simplement, comme ça, on peut, bon, à la limite, on peut même imaginer qu'un jour, on va tourner dans le browser avec Blazor. Mais le gros de notre code, il est en .NET standard 2.0. C'est un peu frustrant, je ne te cache pas, de voir toutes ces nouvelles méthodes et tout du framework et de ne pas les utiliser. Et c'est un peu une assurance vie pour le futur, de quoi qu'il arrive. On tournera, quoi. Okay. Mais bon, pour l'instant, le futur .NET, il est assez assuré avec les .NET 8, .NET 9, etc. Mais il est plutôt bien balisé, on va dire. Mais en tout cas, nous, ça nous permet d'être présents dans Visual Studio, qui est sur .NET Framework, ou sur Linux, ou sur Mac, etc. Dans tout. Donc, c'est assez intéressant.
Petite question pour finir, là. Novembre, on va avoir .NET 9. Vous êtes déjà en train de travailler sur une nouvelle version du Code Analyzer de Mesianto, sur l'intégration dans Ndepend.
Bah, moi, si on verra s'il y a des fonctionnalités où je m'y tiens. Maintenant, comme il y a telle nouvelle feature et que ça peut avoir le coup de l'utiliser, peut-être à voir là, quand ça va venir. À date, c'est vrai que depuis 2-3 ans, ils sont quand même beaucoup plus... C'est quand ils développent les features, c'est comment ils peuvent les intégrer dans les analyzers built-in. Là. C'est vrai qu'il y a moins de travail à faire à ce niveau-là. Donc on verra quand ça va arriver. Là.
C'est vrai que si Sharp 9, je n'ai pas vu beaucoup de nouveautés. Hein.
Oh, sûr, quand même, les dernières années... Là, tu parles du 9, hein, le dernier...
Oui, je parle du 9, ouais. Je parle du 9, ouais.
Ah oui, c'était peut-être une blague alors, parce qu'il y avait .NET 9, non ? Mais non, quand même, moi je trouve que ça évolue, hein. Ça évolue, pas toujours dans le bon sens, à mon très humble avis, hein, mais je ne détiens pas du tout la science infuse, je ne suis pas d'accord avec tout, mais il y a certainement d'autres gens derrière qui sont très contents d'avoir d'autres trucs, donc tant que ça impacte, tant que ça ne va pas breaker le code qui existe déjà, pour moi c'est pas un souci, mais surtout qu'ils sont très forts d'ailleurs pour ne pas breaker... pour ne pas casser le code à distance. Donc ça, c'est vraiment leur priorité. Et nous, de toute façon, on a toujours targeté les derniers frameworks. Après, nous, on voit dans nos clients, il ne faut pas se leurrer. Peut-être pour les jeunes et tout, ils sont « Ah, c'est super, C Sharp 12 et tout ». Les clients, moi, j'en connais, ils sont encore sous .NET Framework, Visual Studio 2017.
Moi, le premier. Hein.
voilà. Donc, toi aussi, tu as ce genre de clients. Ouais. Mais les gros comptes... ils sont pas dans la hype, on va tout faire le dernier truc et tout. Ce qui peut-être pour les nouveaux projets, quand tu démarres un nouveau projet, .NET 8, c'est formidable. Mais par contre, quand tu as du bon gros legacy, clairement, c'est pas tous les ans ou même tous les deux ans avec la version LTS que tu vas migrer. Hein.
Mmh. Et toi, Gérald, chez vous, là où tu es maintenant, c'est quoi c'est
du... On est pas mal sur les dernières versions. Là.
.NET 2
Non, on va plutôt être sur .NET 6 ou plus. Là.
D'accord.
Ah, ben, 6, c'est déjà bien.
Mais après, t'as vraiment un move à faire .NET Framework à .NET 6, qui est la version supportée. Là. Mais une fois que tu as fait ça, après, passer .NET 7, .NET 8 ou .NET 9, souvent, c'est trivial. Hein. Ce n'est pas des journées de migration.
Il te sort une petite méthode que tu te dis, ah ouais, en fait, celle-là, j'en avais vraiment besoin. Enfin, dans les nouvelles versions, ils ont toujours quelques petites méthodes. Tu te dis, ah ouais, quand même. Alors, il y a certaines, tu pouvais te les faire en extension méthode, et puis il y en a certaines, pas du tout. Il y en a certaines, c'est vraiment profond dans l'implémentation de certaines classes. Ouais. Donc,
mais tu n'es pas obligé de les utiliser. Tu peux migrer à .NET 9 sans utiliser de nouvelles méthodes. Là, juste tu changes le target framework et puis quelques références Nuget. Et après, une fois que tu as fait ça, tu peux voir si tu as les nouvelles méthodes qui t'intéressent.
Mm-hmm. Ouais, ouais. Mais bon, donc nous, on est loqué en bonne partie sur .NET standard. Donc, il y a quand même plein de trucs qu'on ne peut pas vraiment jouer avec.
Ouais. C'est et puis la 2.0, pas la 2.1.
Et oui, la 2.0. Parce que la 2.0, c'est celle qui tourne à la fois sur le framework et sur tous les .NET Core.
Mais la 2.1 ne sert à rien, quoi.
Hein ?
Oui, la 2.1, elle ne sert à rien, techniquement.
Ah oui,
maintenant, tu targetes .NET 6, quoi.
Oui, exactement. C'est pas un standard, la 2.1. Ils n'ont pas voulu mettre tout ce qui est span dans le CLR du .NET Framework. Donc à partir de là, la 2.1, c'est pas vraiment un standard. Donc c'est pas le standard, c'est vraiment 2.0.
Bien, bah écoutez, merci pour toutes les informations. Encore une fois, bon anniversaire Patrick.
Merci.
Et puis nous on se retrouve une prochaine fois pour notre prochain épisode. Ciao tout le monde.
Bye bye.
Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez venir discuter de cet épisode sur notre serveur Discord devdevdev.net/discord ou nous envoyer des messages sur notre compte Twitter devdevdev.net tout en lettres. Alors, à très vite !